Chapitre 2. À quelques kilomètres au sud de Borrego Springs, au cœur du désert d'Anza-Borrego, la température dépasse toujours les 25 degrés alors que le soleil s'est couché 6 heures plus tôt. Une pancarte, plantée la veille sur le bas-côté de la petite route, alerte les automobilistes. Département de l'Intérieur, groupe d'études de la flore du désert, défense d'entrée sous peine de poursuite. Le groupe d'études concerné n'existe pas. Mais ceux qui ne se plient pas aux injonctions du panneau risquent bien davantage que de simples poursuites. Légèrement à l'écart, 7 ou 8 personnes s'activent sous une grande tente. Celle-ci sert de QG à la force opérationnelle de 80 agents, disséminés à travers la vallée, qui cherche Travis Hawk et sa mère. Les occupants de la tente pianotent sur des claviers, vérifiant les noms et les plaques d'immatriculation des suspects fournis par les opérateurs de terrain. Dans un coin, un congélateur rempli de pizzas, 2 micro-ondes et un frigo contenant de l'eau et des sodas permettent aux agents de se restaurer. Derrière la tente sont garés 3 énormes camions. Le premier alimente toute l'installation grâce à une génératrice et une cuve de propane, une parabole installée sur le toit de la cabine. Sur le plateau du deuxième sont alignés 6 WC chimiques de chantier équipés de lavabos. Quant au troisième, il accueille un dortoir pour 10 personnes. Le responsable de la force opérationnelle et ses adjoints sont convaincus de retrouver le gamin, de capturer ou de tuer sa mère en moins de 24 heures. Carter Yergen, debout à l'entrée de la tente, observe l'immensité morne du désert qu'entoure un rempart de montagne plongé dans l'obscurité, tel le cratère d'une météorite géante. Au-dessus de sa tête, la lune et les étoiles ont une allure menaçante, comme si un astéroïde s'apprêtait à le pulvériser, conformément à un mécanisme céleste se reproduisant depuis la nuit des temps, tous les millions d'années. Pourtant, ce n'est pas l'arrivée d'un astéroïde qui l'effraie, mais la perspective de se trouver en face du beau monstre. Jane a réussi à échapper à la mort jusque-là. À croire qu'on l'a baignée, enfant, talons compris, dans les eaux du Styx, où elle a pu acquérir l'immortalité, à l'image d'Achille, dont elle n'a toutefois pas hérité la faiblesse. À la suite de la fusillade au cours de laquelle Gavin et Jessica Washington ont trouvé la mort dimanche après-midi, Carter et son collègue Radley Dubose ont fait appel à des renforts. Il est clair que Jane Hawk tentera de récupérer son fils afin de le mettre à l'abri. Yergen regrette de n'avoir pu prendre vivant les 2 gardiens du petit garçon. Il aurait été aisé de les torturer ou de leur injecter un mécanisme de contrôle afin de les obliger à révéler la cachette de l'enfant. À défaut, le plus sage est encore de prendre le gamin pour s'emparer de sa mère. Mieux, de le tuer pour la priver définitivement de tout esprit combatif. Les gens de la sécurité intérieure ont établi le profil psychologique de Jane Hawk. Ils estiment à 90% ses chances de se suicider si son fils est tué. Ce diagnostic soulagerait Yergen si les profils psychologiques de terroristes établis par la sécurité intérieure au cours des années passées n'avaient pas été aussi peu fiables. Une ombre imposante vient bloquer la fente de lumière qui s'échappe des pans de la tente, et Yergen en déduit que son collègue Radley Dubose se tient devant lui. Dubose. La gloire de Trou du Cuville en Virginie occidentale a fait ses études à la prestigieuse université de Princeton. Le responsable des admissions devait avoir picolé plus que de raison le jour où il a reçu le dossier de Radley. Yergen ne voit pas comment il a pu quitter la fac avec un diplôme, sinon en menaçant le président de Princeton de l'éviscérer. Avec son quintal distribué sur 1,95 m, Yergen ne serait pas surpris que l'héritage génétique de son collègue remonte à l'homme de Cro-Magnon. En dépit de sa silhouette aussi massive qu'inquiétante, Dubose se déplace avec la légèreté d'un danseur étoile. S'il n'avait pas fait écran à la lumière de la tente, Yergen ne l'aurait pas entendu arriver. « Je sais bien que cette vallée n'est pas un cratère », déclare Yergen. Mais tu ne te demandes jamais si un astéroïde quelconque n'est pas susceptible de nous éradiquer tous, comme les dinosaures en leur temps? Le seul astéroïde capable de me tomber sur le coin de la figure est cette salope de cul serré de Hawk. Sans parler du polichinelle qui s'est échappé de son tiroir il y a 5 ans. Jergen soupire. Décidément, on vous enseigne le sens de la poésie à Princeton. C'est quoi cette fixette? On a passé l'âge. Tu as 37 ans et moi 35. Je me suis tapé des études à Princeton pour arriver à mes fins sur le plan professionnel, rien d'autre. En revanche, je suis surpris de ton attachement sentimental pour Harvard. Tous les hommes de ma famille font leurs études à Harvard depuis des générations. C'est une question de fierté, de tradition et de réussite. Voilà bien une vision de gosse de riche de Boston. Entre deux cours, vous faites un match de cross et vous rejoignez une amicale étudiante. Tout ça sans risque, pour le seul plaisir de briller aux yeux des rares personnes qui croient encore au prestige de Harvard. Je ne vois pas le rapport avec la réussite. Parce que tu sais ce qu'est la réussite, toi ? Dans ma famille, on fabrique du whisky clandestin. On fait pousser de la beuh et on vend des comprimés d'ecstasy depuis des générations. C'est ça la tradition et la réussite. Je veux bien que vendre de la dope à des gamins soit une tradition, mais question réussite, j'avoue que ça m'échappe. Mon daron et mon oncle n'ont jamais vendu de drogue à des élèves de primaire, seulement aux collégiens. À 14 ans, on n'est plus un gamin. C'est l'âge de la majorité sexuelle, je te signale. Ce n'est pas du tout l'âge de la majorité sexuelle, même dans le fin fond de la Virginie occidentale. Ça l'était autrefois, avance Dubose. Ouais. Et si tu remontes un ou deux siècles en arrière, tu t'apercevras qu'il n'y avait pas d'âge pour la majorité sexuelle. Dubose passe un bras autour des épaules de Jergen, qui se passerait volontiers d'un tel geste de camaraderie. C'était le bon temps, tu trouves pas ? C'est dommage qu'on n'ait pas inventé la machine à remonter le temps. Il tape Jergen sur l'épaule avant d'ajouter. On a dormi 4 heures, mangé des pizzas géniales et bu assez de café pour courir un marathon. C'est l'heure de se remettre en chasse. Sur ces mots, Dubose se dirige vers les véhicules garés dans le noir à côté de la tente. Les pizzas n'étaient pas géniales, elles étaient dégueulasses, rectifie Jergen en emboîtant le pas à son collègue. Parce que t'as pris de la pizza de Tarlouse avec des olives noires, des champignons et des herbes bizarres. C'était de la coriandre. Si tu avais pris de la pizza aux 5 viandes, comme moi, tu serais regonflé à bloc. Carter Jergen grimace en repensant aux morceaux de fromage et aux immondes tranches de viande avalées par Dubose. Le festival de paix ne va pas tarder à suivre et il n'a même pas de masque à gaz. Les chefs de la Révolution ont eu la bonne idée d'attribuer de belles bagnoles à leurs exécutants, sachant que c'est le contribuable qui paye. Le dernier véhicule en date, affecté à Jergen et Dubose, est un Vélociraptor, la variante à 6 roues et 800 chevaux du Ford F-150 Raptor, sans parler des options. Un monstre noir éblouissant. Depuis qu'on leur a confié les normes 6-6 le vendredi précédent, Dubose s'en est approprié les clés.
Cette fois, je prends le volant, décide Jergen.
Quel volant ? Rétorque Dubose en ouvrant la portière du conducteur. Jergen n'a d'autre choix que de prendre la place du mort.